Le texte que je vous invite à entendre ce matin nous vient tout droit de la dernière séance de pause biblique, le groupe biblique qui se réunit le mardi entre midi et 2h. Nous avons entamé au début de l'année, en septembre-octobre, un parcours sur les naissances de Jésus, les naissances de Jésus. Et ce mois-ci, nous avons lu la généalogie de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, et c'est donc cette généalogie que je vous invite à entendre aujourd'hui. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, avec Ruth, engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David. Le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asaph. Asaph engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amos. Amos engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Dans l'exil à Babylone et après, Jéconia engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Akim, Akim engendra Éliud, Éliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. La généalogie de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu n'a pas grand-chose à voir avec les généalogies modernes, celles qui sont scrupuleusement reconstituées à force de recherches méticuleuses, de croisements de données, de temps passé à remonter le fil du temps en compulsant d'anciens registres à l'écriture parfois indéchiffrable ou en consultant ces 10 registres sur les sites internet dédiés. Les généalogies modernes font apparaître les noms, les situations familiales, les professions, les confessions, des déplacements. Il s'agit d'être le plus exact possible pour la plus grande satisfaction des généalogistes. Le souci de l'exactitude n'est pas ce qui transparaît vraiment à la lecture de cette généalogie de l'Évangile de Matthieu. C'est même à se demander si l'évangéliste sait bien compter et lire. Il récapitule au verset 17 en annonçant 3 séries de 14 générations. Cependant, le compte n'y est pas, car vous avez bien compté. S'il y a bien 14 engendrements dans la première série, il y en a 15 dans la seconde et 12 dans la troisième. L'apparente belle régularité de chaque série couvre des périodes allant de 600 à 800 ans. Certaines générations doivent faire preuve d'une belle longévité. Mais puisque la gématria, la science des chiffres et des nombres rapportés aux mots dans la langue hébreu, pose que 14 est le nombre correspondant au nom de David, nous pouvons comprendre ce verset 17 où Matthieu insiste sur les 14, les 3 fois 14 générations. On peut aussi noter que lorsque Matthieu recopie la liste des successeurs de David telle qu'elle est présente dans les livres des chroniques, il en oublie certains, il se trompe sur d'autres. Et puis il faut également ajouter que la généalogie présentée est quand même bien celle de Joseph, qui n'engendre pas Jésus, mais qui l'adopte. Et que dans une généalogie qui, à cette époque du moins, est normalement une liste de pères engendrant un fils, Matthieu a introduit des mères. C'est donc une généalogie étrange qui commence cet évangile et qui commence aussi le Nouveau Testament. C'est le premier texte du Nouveau Testament. Une liste un peu tordue, un peu trouée, par laquelle Matthieu veut présenter l'origine, la genèse, le commencement de Jésus confessé au premier verset comme Christ, fils d'Abraham et fils de David. Des généalogies, il y en a un certain nombre dans la Bible hébraïque. Et il y en a également une dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, une autre généalogie de Jésus, une autre parce que d'abord elle va dans l'autre sens, remontant de Joseph à Adam, et puis à Dieu, et puis qu'elle comporte suffisamment de noms différents de la généalogie de Matthieu pour qu'on ne puisse pas du tout les fondre l'une dans l'autre. Mais des généalogies bibliques, il y en a dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre de la Genèse, dans les Chroniques, dans le livre d'Esdras, des passages que l'on peut trouver tout à fait très ennuyeux, mais qui ont cependant des fonctions très importantes en Israël. Les généalogies servent à établir des liens de parenté, en faisant parfois preuve d'une grande capacité d'adaptation, d'une extrême souplesse, voire d'une fluidité qui ferait s'arracher les cheveux aux généalogistes d'aujourd'hui. Les généalogies servent aussi à découper l'histoire en périodes, à l'aide des grands événements, comme la généalogie de Matthieu qui s'articule autour du règne de David, puis de l'exil à Babylone, et ainsi, à l'aide des noms périodisés grâce à des grands événements, le peuple peut reconstruire son histoire jusqu'à son origine. Et puis les généalogies permettent de légitimer une personne. Cela, c'était une pratique très courante dans l'Antiquité, d'attribuer à une personnalité, à un ancêtre prestigieux. Jules César avait fait établir une généalogie remontant à la déesse Vénus, rien de moins. Pour le peuple juif, cet établissement de parenté pour une légitimation a été fort utile après le retour à Babylone, lorsque les exilés sont revenus et ont cherché à refaire un peuple avec ceux qui étaient restés. Il y a eu beaucoup de tensions. Il fallait définir à qui pouvaient appartenir certains biens. Et puis il fallait aussi établir les origines de la parenté parce que, à cette époque, le resserrement du peuple d'Israël sur sa propre identité a fait que lorsqu'un juif avait une origine étrangère par un de ses parents, eh bien, cela pouvait lui interdire l'accès à certaines fonctions. Et puis, il s'agissait enfin, et comme c'est le cas pour Jésus, d'être inséré dans une famille dans laquelle on n'est à proprement pas né de chair et de sang. Puisque Jésus, qui est le Christ, n'est pas le fils de Joseph. Luc et Matthieu sont au moins d'accord sur ce point. Joseph adopte le fils de sa fiancée Marie. Et Matthieu explicite cette adoption dans le récit qui suit immédiatement la généalogie, le récit de l'annonce faite à Joseph. Avec ces différents éléments, nous comprenons bien que la généalogie de l'évangile de Matthieu ne relève pas d'un projet documentaire précis de rapporter la réalité d'une succession. Le projet de Matthieu est d'ordre théologique. Il s'agit pour lui d'une manière d'affirmer que Jésus est bien le Messie attendu, de la lignée du roi David, selon la promesse des prophètes, de la famille d'Abraham, le patriarche, en qui sont bénies toutes les familles, tous les clans de la terre. Matthieu n'écrit pas pour rendre scrupuleusement compte d'événements, mais pour proclamer une foi vivante et vivante pour lui qui rédige son évangile une cinquantaine d'années après la mort de Jésus. Et parce que Matthieu est d'origine juive, vraisemblablement un scribe, un érudit, il s'attache à faire comprendre comment en Jésus sont accomplies les attentes et les promesses de la foi d'Israël. Matthieu, je vous le rappelle, écrit dans un contexte historique douloureux, après la destruction du temple et d'une grande partie de Jérusalem, après la rupture entre le judaïsme qui doit se refonder et qui se refonde sur ses écritures, et rupture avec le christianisme qui se fonde sur le Christ vivant. Mais Matthieu ne veut pas que l'Église, dans laquelle les croyants venus du monde païen deviennent plus nombreux que les croyants venus du judaïsme, il ne veut pas que l'Église oublie que Jésus de Nazareth était juif. Il ne veut pas que l'Église oublie son origine, son ancrage juif, qu'il présente comme une richesse renouvelée. Alors, pour dire que Jésus est le Christ, pour dire qui est Jésus le Christ, Matthieu bouscule le genre généalogie. Il y introduit des femmes, quatre arrière-grand-mères, qui ne sont pas les matriarches. Ni Sarah, la très belle épouse d'Abraham, ni Rebecca, la très obstinée épouse d'Isaac, ni Rachel, la très aimée épouse de Jacob. Mais Tamar, Ruth, Tamar Rahab, Ruth et la femme d'Uri. Quatre femmes dont Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, a dit que si elles avaient été insérées dans la généalogie, c'est parce qu'étant de très grandes pécheresses, elles pouvaient ainsi annoncer que Jésus est le Sauveur. Certains ont du mal à croire que les femmes sont des humains comme les autres. Mais il est vrai cependant qu'un parfum de scandale flotte autour de ces quatre arrière-grand-mères de Jésus. Tamar est la belle-fille de Judas, un des fils de Jacob. Veuve une première fois, elle épouse un autre fils de Judas, qui meurt à son tour. Deux fois veuve et sans enfant, Tamar est en droit d'épouser le troisième des fils de Judas. C'est ce que prescrit la loi du Lévirat. Mais Judas n'y tient pas. Et comme de toute manière son troisième fils, le dernier, est trop jeune, il renvoie Tamar chez son père, en attendant. Et Tamar attend, longtemps, jusqu'à ce qu'elle décide d'agir. Vêtue en prostituée, elle se place sur le chemin de son beau-père qui couche avec elle sans la reconnaître. Tamar, enceinte, est dénoncée à Judas, son beau-père, mais elle saura, elle pourra faire reconnaître le père de l'enfant et son droit. Et par ce stratagème tout à fait transgressif de toute morale, de tout bon comportement social, Tamar permet la transmission de la vie. La deuxième femme est Rahab. Elle, elle est vraiment prostituée. Et en plus, elle est cananéenne. Rahab est une habitante de Jéricho. Mais convertie au Dieu des Hébreux, elle héberge les espions israélites envoyés par Josué qui prépare le siège et la prise de Jéricho. Rahab ne dénonce pas ces espions que cherchent évidemment les Cananéens, elle leur sauve la vie. Et pour cela, Rahab et les siens sont épargnés lors de la prise de Jéricho et la prostituée est accueillie au sein du peuple d'Israël. Son courage et sa foi font passer le don de la terre promise vers la réalisation de la promesse. Rahab est citée dans l'Épître aux Hébreux, dans la longue, longue liste des hommes et des femmes de foi du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Elle est également citée par l'Épître de Jacques qui dit d'elle qu'elle a été justifiée par ses œuvres. La troisième femme de la généalogie, c'est Ruth, la Moabite, issue d'un peuple honni par Israël. Mais Ruth est tellement attachée à Noémie, sa belle-mère, que lorsqu'elle est devenue veuve et que Noémie envisage de rentrer dans son pays, eh bien Ruth quitte son peuple pour rejoindre celui de Noémie à Bethléem. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, dit-elle à sa belle-mère. Sa confiance en Noémie et son audace lui permettront d'épouser Boaz grâce à une initiative aussi étonnante que réjouissante. Et Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. Tamar, Rahab et Ruth. Trois femmes prennent leurs responsabilités et font des choix. Des choix de foi, de fidélité. Des choix pour la vie, quand la mort, la perte ou l'effacement semblent le seul horizon. Leur courage, leur audace, leur capacité à transgresser les traditions, les convenances, les frontières ethniques et religieuses, leur détermination à dépasser les déterminismes des systèmes et des fatalités, leur subversion des pouvoirs établis. Tout cela reflète quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose qui tient à Dieu, quelque chose qui témoigne de Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui lui-même ne s'est pas embarrassé de codes moraux, sociaux, ni de rites religieux, ni d'aucun des aquabons que les humains ressassent si souvent. Jésus le transgresseur, le subversif. Matthieu le met largement en récit dans son évangile. Mais c'est déjà là, dans la généalogie du premier chapitre, avec ces femmes qui font brèche dans la linéarité des pères et des fils, brèche pour un souffle nouveau. Oh, un souffle d'étrangeté et de scandale, oui, mais un souffle d'avenir qui relaie l'espérance de Dieu. Ces femmes agissent avec une liberté déconcertante dans des sociétés corsetées de qu'en dira-t-on, d'intérêts particuliers, de méfiance et de haine de l'autre. La jeunesse de Jésus passe par elles, par leurs initiatives inspirées par l'esprit vivifiant. Initiative pour une justice qui n'est pas réglée sur les logiques humaines, mais sur le souci des vivants et de l'avenir. C'est un peu différent pour la femme d'Uri, Bethsabée, qui n'est pas nommée. Dans cette généalogie, elle n'est même pas désignée comme étant l'épouse du roi David. C'est qu'en fait, ce n'est pas elle qui est pointée à travers cette désignation de femme d'Uri. Mais ce que Matthieu rappelle, de cette manière, c'est le crime de David, qui fait tuer Uri, le soldat hittite, en le faisant placer en première ligne lors d'un violent combat, afin qu'il soit tué, afin de prendre sa femme, Bethsabée, qu'il convoite. Le roi le plus prestigieux de la lignée, celui dans la famille duquel doit naître le Messie, ce roi dans la généalogie de Matthieu n'est considéré que du point de vue de l'adultère qu'il a pratiqué et du meurtre qu'il a manigancé. Matthieu signifie de cette manière à quel point ni la perfection ni la pureté ne caractérisent la généalogie de Jésus, et que cela n'empêche en aucune manière l'espérance de Dieu, ni le passage de la promesse, ni le passage de la vie. La perfection n'est pas requise. La pureté n'est pas obligatoire. Déjà avec David, et c'est encore plus manifeste dans les actes et les paroles de Jésus. C'est le pardon qui importe. C'est la miséricorde. C'est la grâce. Et après les arrière-grand-mères, c'est la mère de Jésus. Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle Christ. Après les quatre précédentes femmes, le lecteur est averti. Il y a quelque chose d'étrange à propos de Marie. Enfin, plutôt à propos du père de Jésus, qui n'est pas Joseph, Marie, de laquelle est né Jésus. Il y a un autre père. Dans cette étrange histoire, mais qui demande à être interprétée, certains l'interprètent littéralement, ainsi que Matthieu le rapporte, ainsi que Luc, d'une autre façon, le dit aussi, cette conception due à l'esprit. Mais peut-être aussi est-il possible de lire, de comprendre que Matthieu et Luc ont pris en charge chacun à leur manière une rumeur, un doute, suffisamment solide pour avoir duré et pour avoir été déposé ici ou là dans les différents évangiles, même dans celui de Jean qui ne dit rien de la naissance de Jésus. Mais l'hypothèse que soutient par exemple John Spong ou Daniel Margera dans son dernier livre sur Jésus, c'est que Jésus est un enfant illégitime, adopté par Joseph, ce dont rend compte la généalogie et puis la visite de Joseph par un ange dans un songe. Sur le fond de cette rumeur persistante, Matthieu brode comme un midrash, comme un mythe qui reflète une vérité d'origine. D'où vient Jésus ? Il vient de Dieu. Il y a une origine à ce fils d'humain, une origine qui n'est pas nommée dans la généalogie. Mais nous savons bien qu'une famille ne suffit pas à dire la vérité d'une identité. Il y a une origine, une part d'origine, qui échappe aux péripéties de la généalogie, aux liens de sang ou d'adoption. Une origine que la forme passive de la formule « Marie de laquelle est né Jésus », une origine que cette forme désigne implicitement comme étant Dieu. Dieu dont le souffle traverse toute la généalogie, et particulièrement à travers les figures des femmes, Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. Une origine en une divine inspiration de courage et de foi, de conversion et d'accueil du pardon et d'accueil de la grâce, afin que ces inspirations s'inscrivent dans une histoire, dans l'histoire, afin qu'elles s'incarnent dans des femmes, des hommes aussi, de chair et de sang, jusqu'à Jésus, qu'on appelle le Christ, pleinement inspiré, pleinement habité par cet esprit. Dans leur récit, Luc et Matthieu désignent l'esprit comme celui qui recouvre la conception de Jésus. Mais Marc, lui, le met en scène au moment du baptême pour la divine adoption de l'homme de Nazareth. Et de toute manière, cela n'est pas réservé à Jésus. L'évangéliste Jean parle clairement de nouvelle naissance, naître d'en haut, naître de l'esprit, et cela pour tous ceux qui croient, quand bien même leur foi serait étrange et scandaleuse. À la genèse de l'humain, afin que l'humain ne soit pas un être pour la mort, mais un être pour la vie, à la genèse de l'humain, de tout humain, Dieu se tient pour l'inspiration, le surgissement, le passage comme une Pâque, la dynamique de la vie, en chacun de nous, en tous. Amen.